Amen. On va tourner dans Romains 12. Et je vais juste lire les 5 premiers versets, mais à travers le message, on va tout considérer le chapitre au complet. Mais pour s'introduire, j'aimerais qu'on relise, on a lu déjà le chapitre, mais qu'on relise les versets 1 à 5. Je vous exhorte donc, frère, on va le faire en français, on l'a entendu en espagnol. Je vous exhorte donc, frère, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. On te remercie, Seigneur, de ce que c'est toi notre enseignant ce matin, on a ta parole entre les mains. Et Seigneur, si toi, tu ne nous ouvres pas les yeux sur les merveilles de ta loi, ça va être en vain. Ces choses sont discernées spirituellement. Alors toi, qui es le vrai enseignant ici, toi qui parles au cœur même, puisses-tu, Seigneur, t'adresser à chacun ici présent. On continue, Seigneur, de plaider pour ceux qui ne sont pas encore en Jésus-Christ, qui n'ont pas encore sa vie, que tu les convainques de leur péché, de la justice parfaite de Christ, et qu'un jour ils auront à te faire face et que la seule chose qui va tenir, c'est ta justice, imputée par la foi. Et donc, Seigneur, on te prie pour eux, on te prie pour chacun des enfants de Dieu ici. Ah, on a besoin d'entendre ta voix. On a besoin, Seigneur, de te voir tel que tu es dans les Écritures. Donc, Seigneur, révèle-toi à nous comme juste toi peux le faire. On te le demande au nom de Jésus. Amen. Vous avez vu à la fin du verset 5, quand ça dit « Nous sommes tous membres les uns des autres ». Puis avant de vous expliquer un peu où ce que le Seigneur m'a dirigé par rapport à ça pour ce message, mais aussi pour le prochain, je veux souligner d'emblée que la question du membership de l'Église, on va parler de ça à travers les deux messages, mais la parole de Dieu, lorsqu'elle utilise l'expression « membre », pour référer à une église, « membre d'une église », c'est pas sous le même angle ou la même perspective, plutôt je dirais restrictive, que nous on prend. Souvent, nous, on donne le sens qui n'est pas mauvais, mais qui est plutôt restreint de « Ah, je suis membre de l'Église, il y a un côté légal à ça, droit de vote et tout ça ». Oui, c'est vrai, mais il y a plus que ça. La Bible en parle de façon organique, comme une appartenance les uns aux autres, un dévouement spirituel de chacun à l'ensemble. OK? C'est pour ça qu'on va aborder toute la question de c'est quoi être membre d'une église dans la perspective de Christ, la plénitude de l'église locale. Christ, la plénitude de l'église locale. Parce que c'est être membre d'une église, c'est beaucoup plus qu'une simple adhésion. Ça comprend ça, mais c'est plus qu'une adhésion à un credo, à une constitution. C'est plus l'idée d'un mariage. Puis dans un mariage, on est d'accord, puis tout ça, mais il y a vraiment une alliance, il y a un côté qui est bien au-delà du simple côté, on pourrait dire, pratico-pratique. C'est pour ça que je veux vouer les deux prochains messages à la question bien importante du membership d'une église locale comme la nôtre. Parce que ça a tout à voir avec Christ, notre plénitude. C'est le thème du mois de février. Puis vous allez voir aussi un lien par rapport au thème du mois prochain, Christ, notre sagesse. Parce que la plénitude de Jésus-Christ est vécue, évidemment, individuellement dans notre union avec Christ. Pourquoi on a tout pleinement en Christ? Parce que lorsqu'on est uni à Christ dans sa mort et sa résurrection, nous avons absolument tout dont on a besoin. Nous avons la plénitude de par sa mort en notre faveur. Le pouvoir du péché a été brisé et maintenant nous avons sa vie. Nous ne vivons plus par nous-mêmes, mais c'est Christ notre vie. Si on vit encore dans cette chair, on vit dans la foi au Fils de Dieu qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même pour nous. Ça, c'est au niveau individuel, notre union avec Christ, mais c'est également vrai lorsqu'on parle de l'extension de chacun des individus qui forment une église, où est-ce que l'union avec Jésus-Christ de chacun s'incarne d'une façon unique à travers les diverses expressions de ça veut dire quoi la plénitude de Christ. Autrement dit, quelqu'un qui vient dans une église comme ici, avec comment Dieu, lorsque les gens sont sauvés, Dieu a équipé chacun, chacun est une pierre vivante, chacun et aussi ensemble, on exprime qui est Jésus-Christ, pleinement dans tout ce qu'il est. Certains on va le voir là, des noms comme par exemple Miséricorde, d'autres sont beaucoup plus tranchants, puis ainsi parle l'Éternel et tout ça. Et ça, ça l'exprime le caractère de Christ. Les gens qui viennent en contact avec une église locale comme ça voient comment Christ est incarné à travers son église. L'incarnation de Christ est arrivée il y a 2000 ans, il est monté au ciel, mais maintenant, à travers son corps qui est l'église, on voit cette expression-là et on voit cette plénitude. C'est pour ça que c'est Christ, la plénitude de l'église locale. Et c'est ce qu'on considère aujourd'hui dans le prochain message. On va être dans 1 Corinthiens 12 pour voir toutes les dynamiques, parce que là, ça prend de la sagesse. Comment tout ça s'agence ensemble? Aujourd'hui, les expressions de Christ, et la semaine prochaine, dans l'église locale, et la semaine prochaine, les dynamiques de Christ, notre sagesse dans l'église locale. Encore en introduction, tout ça, c'est dans le but, pourquoi qu'on regarde tout ça, c'est de nous apprendre c'est quoi le sens biblique d'être membre d'une église locale. Je pense que c'est une question que c'est... Qui est légitime de se poser en ce moment. Ça nous amène des nouvelles personnes. Il y a des, là, on a comme des vieux nouveaux, des moyens nouveaux, puis des nouveaux nouveaux. On est vraiment mal pris. On sait plus trop quoi. On sait plus où les mettre. On sait plus quoi faire avec. Mais c'est du trouble. Alors, bienvenue à l'église. Hein? Sentez-vous comme chez vous. Là. Non, mais c'est vrai, par exemple. Une église, dans une famille, là, on est du trouble les uns pour les autres, n'est-ce pas? Mais ici, c'est une famille, la famille de Dieu. Tu sais, je fais une joke, mais il y a un fond de vérité. Là. Mais prenez-le pas personnel. Là. Mais c'est la vérité. Maintenant, je veux amener quelque chose d'important par rapport à tout ça. Christ, notre plénitude, a un lien inévitable avec cette adhésion. Et là, je parle d'adhésion... pratique, légale, oui, mais adhésion spirituelle à une église locale. Sur le principe même de l'incarnation, Christ est venu a révélé qui est Dieu. En fait, tiens, je vais vous le lire. Le Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu, l'expression parfaite de son être. Christ, dans son incarnation, a révélé Dieu. Ben maintenant, à travers... Bon, l'Église qui est son corps partout, mais dans une Église locale ici qui est une représentation locale de ça, il y a aussi, comme ça, le rayonnement de la gloire de Dieu, l'expression parfaite de son être. En fait, là ici, ça devrait peut-être être le mot « reflet », parce que Christ est le rayonnement en lui-même. Il est Dieu et il rayonne de la gloire de Dieu. Nous, on est le reflet. On ne va pas se prendre pour d'autres, là. Mais donc, c'est ça. Alors, on va regarder simplement avec notre texte ce matin. De Romains 12, trois expressions de Christ, la plénitude de l'Église locale. La première expression, c'est l'humilité de Christ dans l'Église locale, l'humilité de Christ. Vous avez vu, on a lu les versets 1 à 5, vous avez remarqué qu'il y a vraiment tout l'arrière-plan d'humilité là-dedans. Ces versets sont une démonstration de l'importance, de la centralité, de l'humilité de Christ dans une Église locale. Et je vous explique. D'abord, dans les versets 1 et 2, vous les connaissez bien, certains les connaissent par cœur, versets précieux. On voit quatre caractéristiques de l'engagement produit par une réelle humilité. Lorsque dans l'humilité, on marche avec Dieu, ça va produire comme fruit quatre éléments qu'on voit dans les versets 1 et 2. D'abord, on voit la base de l'engagement. Ça dit, je vous exhorte, frère, par les compassions de Dieu. Pourquoi on s'engagerait? À cause de comment Dieu nous a tant aimés. C'est pas en nous qu'on trouve quelque chose de bon. C'est en réponse à toute la bonté de Dieu. Quand il dit, je vous exhorte, par les compassions de Dieu, il faut regarder en arrière avec tout le grand salut qu'il a tout développé dans les 11 premiers chapitres de Romains. Il dit, avec ce si grand salut, maintenant, cette grande compassion que Dieu a eue envers vous, je vous exhorte maintenant à répondre en offrant vos corps en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Donc, la base de l'engagement, c'est la miséricorde de Dieu. Et pour être même un peu plus précis, sa miséricorde qui nous confère sa justice. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et aussi qui nous place dans son amour parfait. Il n'y a plus aucune séparation pour les enfants de Dieu. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Ça, c'est le début du verset 1. Le reste du verset 2 nous parle d'un sacrifice. Ça dit d'offrir à Dieu nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. L'idée de culte, il y a la notion d'adoration. Donc, c'est quoi qu'on voit ici? Si on a vu la base de l'engagement, dans la deuxième partie du verset, on voit le caractère de l'engagement. C'est un engagement total. C'est pas partiel. On offre notre corps au complet. Dieu, c'est plus ma bouche maintenant. Je veux que ma bouche proclame tes louanges, qui tu es. Ton évangile. Je veux que mes mains servent à accomplir tes desseins. Je veux que mon corps soit un véhicule pour toi. Et ça, c'est, donc, c'est un engagement total, mais aussi... Bon, puis là, j'ai cherché dans le dictionnaire adoratif, ça se trouvait pas, là, mais... C'est un sacrifice d'adoration. C'est un sacrifice qui est en esprit et en vérité. C'est un culte d'adoration envers Dieu. Donc, complet, mais avec la notion... d'adorer Dieu, comme justement avec Abraham, qui est une bonne expression de ça. Puis bon, Abraham est un type de Christ, là, qui offre un type du Père qui offre son fils. Mais lorsqu'il s'en va comme ça, ça dit, nous irons jusque là pour adorer. Donc voyez-vous, il était prêt à se donner complètement. Donc c'est une bonne illustration de ça. Et c'était par la foi, parce qu'il dit, nous reviendrons. Donc, c'est ici le caractère de l'engagement. Au début du verset 2, on a les exigences de l'engagement lorsque ça dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Il y a deux aspects à ces exigences. D'abord, de façon négative, « Ne vous conformez pas. » Puis littéralement, l'idée, c'est « Arrêtez d'être conformé. » C'est déjà en train de se produire, arrêtez. Que la grâce de Dieu qui est dans votre vie soit opérante pour arrêter cette conformité au siècle présent, parce que c'est normal, c'est automatique dans notre nature pécheresse. Fait qu'il y a ce côté-là négatif. Et du côté positif, ça dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, le renouvellement de notre esprit. Et l'ordre est important parce que l'idée, dans le sens de 1, 2, 3, 4, mais ordre dans le sens de commandement. L'ordre ici d'être transformé, le temps de verbe qui est utilisé, c'est le passif impératif. Ça veut dire que c'est un ordre, mais c'est pas nous qui le fait. C'est-à-dire que on en bénéficie en se plaçant sous l'influence de Dieu. Donc, nous, notre rôle, c'est de se placer comme ça, sous l'influence de Dieu, humblement, justement, dans l'humilité. Puis Dieu, avec ça, il va faire son œuvre de transformation. C'est pas moi qui me transforme par ma propre capacité. Moi, je me place sous Dieu, je m'expose à sa parole, je regarde à lui au lieu de regarder à moi, mes circonstances, comme un prédicateur on a écouté cette semaine. Look away! Look away! Away from yourself, puis à Christ. Excusez, là, c'est en anglais, là. C'est de sa faute. C'est un anglais qui nous a dit ça. Qu'est-ce que je disais, donc? Ah oui, c'est ça, donc... C'est de se placer sous l'influence de l'esprit et de l'autorité de la parole. C'est comme ça. Donc le commandement, c'est de faire ça. Puis là, il va y avoir cette transformation qui va s'opérer par la grâce de Dieu. Transformation surnaturelle. C'est pas nous qui se transforme, c'est Dieu qui nous transforme. Notre rôle, c'est de se placer sous son influence. Et d'ailleurs, un autre point là-dessus, il peut pas y avoir de non-conformité sans qu'il y ait de transformation active. Puis j'explique, sinon là, ma vie, ça serait une série de frustrations à ne pas pouvoir avoir la victoire parce que j'ai pas la puissance de la vie, de l'esprit de vie qui m'affranchit de la loi et du péché. Peut-être que vous avez été là, j'essaye, plein de bonnes intentions, mais j'ai pas la puissance. J'ai le vouloir, mais pas le faire. Et c'est pour ça que ça nous dit que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc, par cette transformation, Dieu va briser cette force de conformité. Mais il y a un autre aspect. Si dans mon cœur, il y a cette lutte dont Jésus parle dans Matthieu 6, 24, « Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un ou aimera l'autre, il s'attachera à un ou il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Pour prendre les mots de Jacques, l'homme irrésolu ou l'homme avec deux pensées est inconstant dans toutes ses voies. Ou si dans mon cœur, il y a cette crainte dans mon cœur, prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie et que ce jour ne vienne à l'improviste. Donc, cet engagement demande un dévouement total pour que ça puisse produire du fruit et le fruit, on l'a à la fin du verset 2. Donc, tout ça, cette idée de ne pas être conforme puis d'être renouvelé, c'est afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ça, c'est les effets de l'engagement. L'effet, ça va être que je vais connaître et donc je vais pouvoir faire la volonté de Dieu. Et c'est vraiment important ici dans notre texte de Romains 12, spécialement dans les versets 1 à 5 qu'on est en train de considérer, c'est-à-dire que la volonté de Dieu nous appelle à accomplir en tant que corps ce que lui veut, ses desseins. Et c'est comme ça qu'on va exprimer qui il est. La volonté de Dieu, c'est de se révéler à travers son corps. Et donc, quand j'ai passé à travers tout le processus des versets 1 et 2, la volonté agréable, bonne, agréable et parfaite de Dieu, ça va être de révéler son Fils à travers son corps. Et c'est tellement important que ça soit dans l'humilité. C'est pour ça que Pierre dit, « De même, vous tous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Ça m'amène à la suite logique des deux versets qui ouvrent le chapitre. Dans les versets 3 à 4, ça réfère vraiment à notre façon de penser. « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Verset 3, c'est « Qu'est-ce que je pense à mon sujet? Me penses-tu bon? Me penses-tu suffisant? Quelle est mon opinion de moi-même? Est-ce que mon opinion est trop élevée? Ou est-ce qu'elle est à la lumière de Jésus-Christ? Est-ce que Jésus-Christ est le standard qui va déterminer ce que je pense de moi? Ne vous comparez à personne d'autre qu'à Jésus-Christ. » Et si vous êtes comme ça, vous avez la disposition que Jésus mentionne dans Matthieu 5, 3, « Heureux les pauvres en esprit. » Pauvre en esprit, ce n'est pas quelqu'un qui est pas intelligent, c'est quelqu'un qui n'a pas une autre opinion de lui-même. Il sait qu'il n'est rien, que sans la grâce de Dieu, il ne sera absolument rien. C'est quelqu'un de difficile à offenser. Pourquoi? Parce que il n'y a pas cette opinion de lui-même. « Quoi? Tu m'as offensé, moi? » Non, quelqu'un qui est pauvre en esprit, c'est la disposition inverse. Je vous donne aussi deux références par rapport à ça, par rapport à qu'est-ce que je pense de moi-même. « Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à ceux, à quelques-uns, pardon, de ceux qui se recommandent eux-mêmes, mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. » La seule personne à qui on peut se comparer pour avoir le bon diagnostic, c'est Jésus-Christ. Amen. Parce qu'on va tout le temps trouver pire que nous. Puis si on veut être découragé, on va toujours trouver meilleur que nous. Mais quand on se compare à Christ, c'est la perfection. Et quand on a les regards sur lui, il est celui qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Puis on doit toujours se rappeler aussi, là je vous ai cité 2 Corinthiens chapitre 10, verset 12, mais écoutez 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. « Car qu'est-ce que tu as qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? » Donc, on se rappelle de ça. Il n'y a pas de, excusez l'expression anglaise, self-made man. Personne n'est autosuffisant. Personne ne s'est produit lui-même par sa propre volonté et son bon vouloir. Donc, verset 3, qu'est-ce que je pense? Quelle est mon opinion de moi-même? Puis dans les versets 4 et 5, « Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. » Qu'est-ce que je pense des autres? Non seulement ce que je pense de moi, mais qu'est-ce que je pense des autres? Est-ce que ce que je pense des autres, c'est à l'image du corps, comme c'est utilisé ici? C'est-à-dire que je reconnais et je chéris son unité. Hein? Ça dit qu'on est plusieurs, mais puis on n'a pas toutes la même fonction. Ça, c'est la diversité, mais c'est dans l'unité. Nous sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Est-ce que je chéris le fait que le corps a cette diversité en même temps qu'il a cette unité? Et dans verset 5, on voit est-ce que je chéris, je reconnais la mutualité du corps? C'est-à-dire que on a une dépendance mutuelle. On a besoin les uns des autres. Si on est membres les uns des autres, parce qu'on a besoin les uns des autres. Tu sais, je peux pas dire, bon, ben moi, mon estomac, c'est correct, je n'ai plus besoin. Bon, il y a des organes peut-être un peu moins importants. C'est quoi qu'on peut se faire? Pas la rate qu'on peut se faire enlever, ouais. L'appendice, puis tout ça. Mais tu sais, ça a l'air que c'est quand même pas... Moi, je veux garder tous mes morceaux, là. Dieu m'a mis là, je veux les garder là. Tu sais, puis si on a deux poumons, on peut en perdre un. Mais essayez d'enlever le cœur, voir. Tu sais, ou essayez... En tout cas, tout ça pour vous dire, on a une dépendance mutuelle. Et lorsque le corps est complet comme ça, il y a cette fonctionnalité pour la gloire de Dieu. Et donc, je dirais que la réponse à toutes ces questions-là, est-ce que je chéris l'unité, la diversité, la mutualité, se retrouve seulement par l'expression d'humilité. Je vais le chérir quand je vois que moi, je suis simplement ce que je suis par la grâce de Dieu et je vois ce que Dieu fait comme précieux parce que c'est de lui et je n'ai pas une trop haute opinion de moi-même. Ça m'amène au verset 6 à 8 qui nous parle des dons spirituels. Et je vais le lire ensuite. Vous allez voir, ça va être assez simple ce que je vais voir avec ce point-là. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été donnée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Ici, le principe est bien simple. Si nous sommes un corps et que nous sommes mutuellement dépendants, ben, si ça c'est la réalité d'une église locale comme la nôtre, alors ceux qui sont animés par cette humilité de Christ vont l'exprimer par l'obéissance à Christ, à cause qu'ils voient leur dépendance, à cause qu'ils sont humbles, ils vont vouloir obéir à Dieu en se donnant les uns aux autres de façon christique, en acceptant de servir le Seigneur dans le service des autres. Et ça, ça vient avec un prix. Oui, des fois, c'est en acceptant de souffrir pour le bien puis le péché des autres. Et les sept dons ici, la semaine prochaine, on va plus parler des dons à proprement parler, dans 1 Corinthiens 7. Mais ici, les sept dons sont inclusifs. En anglais, ou englobant, si vous voulez. En anglais, il y a l'expression all-encompassing, mais englobant, c'est l'idée. Ils englobent l'ensemble des dons qui, les autres dons, sont des sous-catégories. Et voici comment ça s'exprime dans une église locale comme la nôtre. Une illustration, une image vaut mille mots. Disons que nous avons, il y a comment, 3-4 fêtes. Là, on fait un beau, d'ailleurs, il y a un gâteau en haut. Là, on sort le gâteau, c'est la fête à Lydia, puis là, on est tous contents, on est tous réunis autour de la table. Disons qu'on est 7 avec 7 des dons, chacun un des dons qui sont ici, il y en a 7. 7 qui est complet, ça fait le tour. Et donc, malencontreusement, le gâteau tombe à terre. Oh, le gâteau est tout écrapouti, puis ça va mal. Là, voici comment vont s'exprimer les différents dons. Le prophète, qui lui est motivé pour proclamer la parole, se lève, puis dit, ben voyons donc, on sait bien, tu parles comme un Italien, puis t'as tout fait comme ça, tomber. Faut que tu fasses attention, c'est évident que avec la façon que tu t'exprimais, que t'allais le faire tomber. Tu comprends? Boum, le prophète, il proclame la vérité telle qu'elle. Il passe pas par quatre chemins, puis il peut être offensant. Le serviteur, lui, dit pas un mot. Il ramasse le gâteau. Il exerce son ministère. Ministère, c'est le mot pour diaconat, serviteur. Il fait juste ramasser, datil. L'enseignant, il va s'asseoir à côté. Puis il dit, tu sais que, selon toute probabilité, vu que tu étais à 1,5 mètre du gâteau, puis que ton bras mesure
un mètre, puis avec les expressions que tu faisais, évidemment que ça a tombé. Parce que quand on analyse ça, t'étais trop proche, j'avais voulu que tu te mettes au moins à 2 mètres du gâteau. Puis le gâteau qui soit à 18 cm du centre de la table. Ça, c'est l'enseignant, comprenez-vous? Lui, il va tout expliquer, puis il a tout. OK?
Il est motivé à ça, à clarifier la vérité. Celui qui exhorte, c'est celui qui vient à côté, puis il dit: tiens, c'est quelqu'un qui veut encourager. Ah, tu sais, ça nous arrive tout d'échapper des gâteaux dans la vie, là. Tu sais, puis Dieu peut t'utiliser pareil. Tu peux apprendre de ton erreur. Lâche pas. Tu peux grandir avec ça. C'est une façon pour toi de découvrir Dieu et sa grâce d'une façon que tu ne connais pas encore. Ça, c'est celui qui exhorte. Celui qui a le don de libéralité, comme le serviteur, il dit pas un mot. Il prend 25$ dans sa poche. Il donne ça au serviteur quand il finit de ramasser, puis il dit: va donc acheter un autre gâteau, puis ça va être réglé. OK? Puis, celui qui a le don de présider, de diriger, lui, il voit la tâche, puis là, il dit: hey, t'as peu, là. Là, le parti peut vraiment virer mal. Fait que là, il coordonne. Hey, il y a un œil, le serviteur, OK, il fait ça bien, puis là, il y a un œil sur celui qui a le don de libéralité. Ouais, pour moi, lui, va. Puis là, il s'assure que. Le prophète, il pogne pas trop les nerfs, tu sais, celui qui proclame, puis il s'arrange pour, il coordonne, il préside, il y a un désir de voir les choses être selon la vérité, que tout se fasse avec bienséance et ordre. Et finalement, celui qui a le don de miséricorde, il s'en va à côté de celui qui a échappé le gâteau, puis il pleure avec: oh, je te comprends, ça doit tellement être dur ce que tu vis, puis l'autre, il est tellement pas gentil avec toi, mais je te comprends, puis il pleure avec celui qui pleure. Son don, c'est la miséricorde. Mais, écoutez, tout ça, je dis une image vaut mille mots, ça nous montre comment l'obéissance à Christ s'exprime de différentes façons. Et c'est toujours en lien avec la vérité. Lorsque ces dons, c'est des dons motivationnels, c'est quelque chose qui nous motive, c'est quelque chose qui nous anime, puis c'est en rapport avec la vérité, de la proclamer, de servir pour l'avancement de la vérité, c'est tout rapport à la vérité, et ça s'exerce dans l'amour. Et ça, c'est vraiment comme ça dit dans 1 Corinthiens 14, lorsque ça se fait avec bienséance et ordre, qu'est-ce qui arrive? Écoutez bien. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans l'amour. C'est ça que ça donne comme résultat. L'obéissance à Jésus-Christ dans l'Église locale. Et maintenant, on termine avec le troisième point, l'amour de Jésus-Christ dans l'Église locale, dans les versets 9 à 16. On va les lire à mesure qu'on avance, mais juste pour dire que les versets 9 à 16, c'est l'expression de l'amour dans l'Église locale, et bien que dans les versets 17 à 21, ça n'exclut pas l'Église locale, mais aussi toute la notion d'avec le monde, comment que je suis dans mes relations avec le monde. Et donc, dans les versets 9 à 16, il y a cette expression de l'amour de Jésus-Christ dans l'Église locale. D'abord, le début du verset 9, ça dit « que l'amour soit sans hypocrisie ». Ça, c'est la qualité de l'amour. L'amour, elle n'est pas hypocrite, elle est vraie, elle est telle qu'elle, sincère. Dans la deuxième partie du même verset, « Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. » Ça, c'est la moralité de l'amour. L'amour prend position contre le mal et pour le bien. L'amour n'est pas neutre. Tu sais, l'amour, des fois, il y en a qui vont dire « Ah, oh, on s'aime tout. » Non, l'amour, elle a cette moralité où est-ce qu'elle a le mal en horreur, mais elle s'attache fortement au bien. L'amour n'est pas amorphe, elle est vivante. Maintenant, on va au verset 10, le dévouement de l'amour. « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur usé de prévenance réciproque. » L'amour est en action, l'amour est sacrificiel. Et elle pense, elle se sacrifie pour les besoins des autres et même accepte de souffrir pour les péchés des autres. Écoutez à ce sujet ce que ça nous dit dans 1 Jean chapitre 3, versets 16 à 19. « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donné notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Écoutez aussi ce que Jésus dit dans Jean 15, versets 12 et 13. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc, le dévouement de l'amour, l'amour se donne. Ensuite, on a dans les versets 11 et 12 l'expression énergique de l'amour. Verset 11. « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. » L'amour a un zèle. L'amour est exempt de paresse. Elle est énergique. Oui, elle se sacrifie, mais pas juste du bout des lèvres à moitié. Non, il y a une passion dans l'amour de Dieu. Puis aussi, elle se nourrit d'espérance et elle persévère dans la prière. La source de cet amour énergique, elle est en Dieu. C'est pour ça qu'elle est énergique, parce que la source est divine. Une cinquième expression de l'amour dans les versets qu'on considère. Au verset 13, on voit les soins de l'amour. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Donc, ces soins s'expriment d'abord par l'hospitalité. Le mot pour hospitalité, c'est le mot communion, koinonia. Donc, c'est pas juste de « OK, t'es chez nous, va dans le coin là, puis j'ai fait ma job cochée, tu sais, puis j'ai donné une toast avec un peu de beurre. » Non, c'est une communion, OK? C'est ça l'idée de l'hospitalité. Puis ici, quand ça dit « exercer l'hospitalité », le mot qui est utilisé, c'est une idée de rechercher, de poursuivre. C'est activement, intentionnellement, on cherche à pourvoir aux besoins financiers et physiques des autres. C'est ça l'idée ici du verset 13 sur les soins de l'amour. Versets 14 et 15, les contrastes de l'amour. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Hop, excusez, j'étais pas... En fait, je me suis trompé. J'ai lu 15 et 16, puis je devais lire 14 et 15. Je recommence. On recule. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez, ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Au verset 14, on a un contraste de différence. On va contrecarrer le mal par le bien. Là où est-ce que c'est ça, au lieu de maudire ceux qui nous persécutent, on les bénit. Il y a un contraste ici. Yosef Tson, que vous connaissez, il appelait ça l'agression de l'amour. Alors que c'est les gens qui le maltraitaient, puis tout ça, il répondait avec amour. Il bénissait. OK? Et c'est très puissant, ça, parce que c'est de Dieu. C'est pas dans notre nature humaine. Une autre chose qu'on voit qui n'est pas dans la nature humaine, c'est donner une réponse en harmonie avec comment la personne est sainte, non pas comment moi je me sens. C'est ça l'idée du verset 15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Ah ouais? Il y a bien plus d'argent que moi, il y a plus de confort, il y a la santé, puis moi je suis malade, j'arrive pas, j'ai pas le goût de me réjouir avec quelqu'un même, voyez-vous? Fait que je serais joué avec ceux qui se réjouissent, c'est pas nécessairement, c'est pas dans notre nature pécheresse quand que ça nous amène à des choses de même. Ou, un exemple, comment ça, elle a des enfants, puis moi j'ai même pas d'enfants, comment je peux me réjouir de tout ça, comprenez-vous? C'est pas si évident de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Il y a un contraste ici avec notre nature pécheresse. Pleurer avec ceux qui pleurent. On peut avoir cette indifférence. Ah, la personne a pleuré, elle trouve ça dur. Puis ouais, oui, puis on lui donne deux, trois petits versets. Mais notre cœur n'est pas touché. OK? Donc, un contraste de réponse similaire. Qui n'est pas selon notre nature pécheresse, mais qui est là pour encourager, fortifier les personnes dans l'état spirituel dans lequel ils se trouvent. Et finalement, au verset 16, le réalisme de l'amour. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. L'amour ne s'imagine pas être un héros dans sa propre compréhension, mais comprend qui je suis réellement. Ce n'est pas une image déformée de moi-même ou des autres, mais c'est selon la réalité. OK, moi j'ai de la misère avec ça, mais cette personne-là, puis je suis bien bon là-dedans, j'ai pas de misère. Cette personne-là, c'est l'inverse. C'est Tu sais, j'ai pas une opinion trop élevée. J'ai cette approche réaliste de qui je suis, qui les autres sont et dans mes relations avec les autres. Maintenant, très important, on a vu une série d'exhortations. Et on doit comprendre l'ensemble de ces exhortations comme différentes expressions de l'amour de Christ dans une église locale comme la nôtre, et non pas comme un fardeau. J'espère que quand vous lisez des exhortations comme ça, puis ça arrive souvent, spécialement dans les écrits de Paul, des séries d'exhortations comme ça, justement comme dans la fin de notre testament, tiens, il y en a beaucoup, puis bon. Que c'est pas un espèce de fardeau que Dieu veut nous mettre sur les épaules, mais c'est plutôt l'expression de la vie de Christ au milieu de nous autres. Lorsque l'Esprit de Dieu qui m'a affranchi de la loi du péché puis de la mort s'exprime, il va s'exprimer de cette façon-là. Il va s'exprimer dans ses différentes expressions de l'amour. Et lorsque je comprends et je crois cela, c'est libérateur. C'est plus un fardeau sur mes épaules, c'est la joie de répondre à ce que Dieu fait, à qui Dieu est. Et donc, ça m'amène à conclure avec les versets 17 à 21. Très simplement. On les lit, puis ensuite, je vous donne quelques commentaires, puis c'est terminé. « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. » C'est ça que je disais, c'est nos relations. Évidemment, on peut inclure l'église locale, mais l'idée, c'est avec le monde. C'est devant tous les hommes, là, recherchez ce qui est bien. « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Mais si ton ami a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasses des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Je vois dans ces versets-là le triomphe de la plénitude de Christ dans ses enfants et à travers une église locale comme la nôtre. Parce que les trois expressions de sa plénitude sont là. Il faut que l'humilité de Christ, que l'obéissance à Christ et que l'amour de Christ soient là pour que ces versets-là puissent voir le jour comme étant une réalité dans notre vie, dans nos relations avec le monde et dans nos relations interpersonnelles et dans une église locale comme la nôtre. Maintenant, mon appel considère le verset 21. « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Voici ce que je veux dire d'abord à ceux qui sont ici, qui ne connaissent pas encore Jésus comme leur sauveur personnel. Ne te laisse pas vaincre par le mal du mensonge, de l'indifférence, de l'hypocrisie par rapport à la personne et l'œuvre de Christ. Le mal, ça serait de rejeter ça, de voir quelque chose qui est inutile, quelque chose de méprisant, de méprisable, pardon. Non, c'est la chose la plus merveilleuse. En fait, l'effet de l'Évangile, c'est ce qu'il y a de plus beau. Le fait que Dieu, est dans la personne de Jésus-Christ, est mort, lui, juste, pour toi, injuste. Si tu es ici, Christ a fait ce que tu ne pourras jamais faire. Et l'Évangile, c'est quoi? C'est de voir que, en tant que pécheur, je ne peux pas me sauver moi-même, que Christ est le seul qui peut me sauver parce qu'il a vécu la vie que je ne serais jamais capable de vivre. Puis aussi, il a pris sur lui la colère que mon péché mérite. Et donc, face à ça, c'est quoi tu fais? Comment tu réponds à ce qui a été accompli déjà, à cet Évangile qui t'est prêché? Qu'est-ce que tu fais en réponse à ça? Tu dois croire, tu dois l'accepter, tu dois sortir de l'incrédulité et du rejet de ces vérités. La différence est éternelle. Je viens de prêcher l'Évangile, puis écoutez bien ce que ça dit. « Méprises-tu la richesse de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité? » Si t'es ici, puis t'entends l'Évangile, puis t'as pas encore cru, c'est pas la première fois. Puis Dieu est patient, Dieu use de bonté, de longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse aujourd'hui, maintenant, avec ce que t'entends, à la repentance. Si t'es pas sauvé aujourd'hui, réponds à l'appel de Dieu pour être sauvé. Voici maintenant le temps favorable, voici aujourd'hui le jour du salut. Pour vous ici qui êtes un enfant de Dieu par le sang de Christ, racheté par la grâce de Dieu, avec cette même idée de ne pas se laisser surmonter par, de ne pas laisser se laisser vaincre par le mal, mais surmonter le mal par le bien. Comment tu réponds au mal? Il y a beaucoup de mal en ce moment, dans le monde, puis dans nos vies, tu sais, je veux dire, le monde est tout brisé, nos vies, à cause, le péché, ça fait vraiment pas un beau travail.
Non.
Ça fait toutes sortes de mal, ça, c'est déchirant, puis... Mais comment tu réponds? Est-ce que tu surmontes par celui? Parce que c'est pas de, tu sais, de retrousser tes manches, je vais vaincre le mal, là. On a zéro force pour ça. Est-ce que tu surmontes par celui qui a déjà vaincu le monde? Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et c'est le seul qui peut vaincre par la puissance qu'il a d'assujettir toute chose. C'est le seul qui peut vaincre le mal. C'est le seul aussi qui est capable de prendre le mal que tu as et de le transformer en bien, de faire concourir tout ce qui arrive pour sa gloire, selon son dessein, envers ceux qu'il aime.
Amen.
Donc, mon challenge ce matin, c'est simplement si invoquons ce Dieu vivant, vrai, qui change de mal en bien, qui est capable de surmonter le mal par le bien. Seigneur, je te remercie de ce qu'on a pu avoir un temps pour considérer des choses tellement importantes pour chacune de nos vies, mais aussi pour cette Église. C'est quoi une Église locale? C'est quoi être membre d'une Église? Et c'est quoi que ça comporte, Seigneur? Ça s'exprime, comme on l'a vu dans notre texte ce matin, par l'humilité de Christ, par l'obéissance à Christ dans nos rapports les uns avec les autres, et par l'amour de Christ entre nous, au milieu de nous. Seigneur, j'invoque ton secours, ta grâce, pour que tu nous délivres du mal, du péché qui nous enveloppe si facilement. Seigneur, sonde nos cœurs. Toi qui sondes les profondeurs du cœur, sonde-nous afin que, Seigneur, on ne se trompe pas nous-mêmes, qu'on ne se fasse pas désaccroire, qu'on soit honnête devant toi, Seigneur. Ah, et si quelqu'un ici n'est pas encore sauvé, Seigneur, révèle-toi à cette personne, révèle ton Fils, afin que cette personne puisse passer de la mort à la vie aujourd'hui. Tiens, on y croit. Tu es le Dieu qui sauve. Et tu sauves aujourd'hui. Seigneur, aussi, sauve ton peuple. On est dans des temps fâcheux. On veut racheter le temps parce que les jours sont mauvais. Seigneur, on s'en remet à toi. Au nom de Jésus. Amen.